1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout sur Canal B, une dernière cette semaine et puis une dernière ce mois-ci puisqu'il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine et c'est pour ça qu'on prend un peu d'avance aujourd'hui, c'est pas vraiment le dernier vendredi du mois, c'est l'avant-dernier, mais tout de même je vous propose Champ Libre A, saison 3 épisode 2 aujourd'hui, on retrouve Mylène Dalibert, l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres pour y chercher quelques documents qui l'ont grand inspiré. Attendez-vous à de la musique baroque, à du free jazz, à de la pop. C'est Champ Libre à Mylène Dalibert. Bonne émission. C'est Champ Libre A, saison 3, épisode 2. Aujourd'hui, nous recevons le musicien-compositeur rennais, Mylène Dalibert. Bonjour Mylène.
Bonjour Yann.
Qu'on retrouve d'habitude un peu plus tard dans la saison. On te retrouvera très certainement avec ton complice J.S. Nicolet pour venir nous parler de l'édition 11 du festival Autre Mesure.
Du 15 janvier au 17 février à Rennes.
Aujourd'hui, on va plutôt se balader dans ton histoire musicale, culturelle, voir ce que tu as pu nous rapporter comme document. Une dizaine de documents, c'est ça la règle habituelle hein, pour Champ Libre A, avec la participation, et je la remercie d'ailleurs, d'Antoine Blanchet et de Clarisse Mérour. La bibliothèque des Champs Libres qui t'ont guidé peut-être dans les rayonnages d'une bibliothèque que tu connais déjà, tu y as déjà joué par exemple.
J'y ai joué pas plus tard que pour l'ouverture de saison de l'auditorium. Alors la bibliothèque, j'y ai joué aussi parce qu'elle est équipée d'un très beau Yamaha, d'un beau piano à queue, mais que j'ai pratiqué il y a déjà quelques années. Oui, c'est un lieu que je fréquente, on va dire, régulièrement, moins que lorsque j'étais rennais. J'ai déménagé il y a quelques années tout près de Rennes, mais voilà, je suis un petit peu moins usagé des Champs Libres, mais c'est toujours un équipement que je visite toujours avec plaisir.
On te connaît bien pour à la fois le festival, ta pratique de musicien, tu es aussi enseignant au conservatoire.
Oui.
Tout ça, c'est des choses que tu avais imaginé il y a longtemps, en fait, ces activités-là, ou ça s'est fait au fur et à mesure ?
J'ai envie de dire oui parce que voilà ma vocation musicale, je pense qu'elle était ancrée depuis l'enfance. La musique a toujours fait partie de ma vie. Après, de là en faire une activité professionnelle, ça a mis du temps à mûrir. J'ai même été, je dirais, un peu fâché avec le rapport pédagogique de la musique. J'ai eu des débuts comme élève pianiste. Pas toujours heureux, parce que c'est une contrainte d'apprendre la musique, c'est du travail. Mais lorsque je suis arrivé à l'âge de l'adolescence, voilà, là, il se passe, comme dans la vie de chacun, beaucoup de choses. On se révèle un petit peu à soi. Et évidemment, la musique, pour moi, est devenue, à ce moment-là, vers mes 15-16 ans, je dirais, très importante. Et là, j'ai tout de suite envisagé, effectivement, de partager ma pratique, donc faire des concerts. Et puis, j'ai aussi un entourage qui m'a bien aidé à garder les pieds sur terre et notamment à me projeter aussi dans ce que la musique permet en termes d'enseignement. La musique, on la joue, mais c'est surtout un partage. Et il y a plusieurs façons de la partager. Et j'ai aujourd'hui autant de plaisir à partager les moments de scène et puis les cours avec mes élèves à la classe de piano au conservatoire.
Et à l'origine, justement, comment est-ce qu'on partage avec toi la musique, ce qui va te donner vraiment un grand goût pour celle-ci.
La musique, elle a bercé d'abord mes oreilles depuis ma naissance par la discographie, voilà, de mes parents, de mon père particulièrement, qui écoutait beaucoup de musique, des nouvelles musiques folk, et puis les Beatles, ouais. Qui font vraiment partie de c'est un marqueur dans ma famille. Les Beatles, ça accompagne beaucoup de moments familiaux, des moments importants, et puis voilà.
On va écouter justement une pièce des Beatles qui vient peut-être d'un peu plus loin encore, mais on en reparle juste après avec Melinda Libert, notre invitée aujourd'hui dans Chant Libre A, saison 3, épisode 2. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Vous l'avez reconnu probablement, ce titre Blackbird sur le double blanc, c'est les Beatles, choisi par Melinda Libert qui est notre invitée aujourd'hui pour nous balader dans une sélection musicale et aussi autour du cinéma. Je vous rappelle qu'au deuxième étage de la bibliothèque des Champs Libres, c'est ça qu'on trouve, des livres sur la danse, sur la musique, sur le cinéma, et puis qu'on retrouve des enregistrements et puis aussi des films, pas de littérature, et peut-être c'est vers ça qu'on aurait pu aller si tu avais été dans un autre étage. Mais Melaine, revenons à ce qu'on écoutait à l'instant, Paul McCartney, qui s'est un peu inspiré quand même d'une pièce plus ancienne avec ce Blackbird.
Mais bien sûr, et puis il s'en cache pas, et c'est ce qui est bien appréciable, parce qu'en réalité on n'invente jamais rien, hein. Je crois que quand on écrit de la musique, qu'on peint de la peinture ou que sais-je, ou qu'on fait du film de cinéma, on part jamais de la feuille blanche. Il y a toujours tout ce qui nous a nourri précédemment, et clairement, ouais, ce titre des Beatles est inspiré, enfin, il sort d'une bourrée de Jean-Sébastien Bach, voilà, une pièce dont il reprend le cheminement harmonique.
Mieux vaut aller voler des génies, finalement, hein, que des compositeurs un peu plus médiocres.
Oui, il ne s'agit pas de les voler, c'est aussi affirmer une filiation. Je crois que c'est plutôt sain, voilà, de savoir d'où on vient.
On va savoir, évidemment, d'où tu viens à travers la section qu'on va écouter, et puis les films que tu vas évoquer aussi, parce que c'est un grand goût aussi que tu peux avoir, le cinéma. Est-ce que une question se serait posée il y a longtemps entre faire le conservatoire de musique ou plutôt postuler un peu plus tard sur des écoles de cinéma?
Ah non, pas du tout. La musique a pris très vite beaucoup de place et je pense que voilà, j'ai déjà tendance à m'intéresser à beaucoup de choses, donc j'ai concentré mon activité sur la musique. Par contre, vous voyez, le cinéma, ça fait partie des univers qui me nourrissent quotidiennement. Et par contre, c'est aussi un canal artistique qui permet des collaborations avec la musique. Ça arrive, voilà, ma musique puisse aller de ce côté-là.
Le cinéma, on le présente vraiment comme un art total, hein, qui va mélanger aussi bien l'image que l'écriture, que la musique, oui. Forcément, que pas mal aussi d'artisanat qui viennent rentrer dans la fabrication du cinéma. Tu vas nous parler peut-être de ce film Drive My Car, hein, c'est ce qu'on a imaginé dans l'ordre des documents que tu nous présentes. À part le fait que ce soit aussi le nom d'une chanson des Beatles, qu'est-ce qui t'a plu dans ce film et qu'est-ce qu'il évoque chez toi, ce cinéma-là ?
C'est un film qui m'a vraiment bouleversé quand je l'ai vu la première fois. Alors, je ne l'ai pas vu au cinéma, malheureusement, ça arrive qu'on découvre les films aussi sur les plateformes. Donc c'est un film de Ryosuke Hamaguchi, un jeune réalisateur japonais, et alors d'abord qui répond à un fantasme que j'ai par rapport au Japon. C'est une culture qui m'attire énormément, que j'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre les pieds, mais j'espère que ça fera, je réaliserai ce rêve un jour. Mais c'est un film extrêmement pudique sur la question du deuil, sur et ce qui me plaît aussi dans le cinéma, c'est pas seulement l'histoire que ça peut raconter, mais c'est avant tout l'objet esthétique qui est présenté. Et je trouve qu'il y a un sens de l'image, de son rythme, de sa photographie qui est bouleversante, sans parler de la BO qui est superbe. Ça me permet justement de parler de musicien sans le mettre dans la sélection musicale, mais d'une musicienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Eiko Izibashi et que j'ai découvert un petit peu par hasard, qui est aussi la compagne de Jim O'Rourke, un musicien que j'apprécie particulièrement. Une BO aussi qui participe à l'esthétique de ce film et à sa mélancolie jamais pessimiste.
Tu as composé pour le cinéma, toi, Melen ?
Alors non, j'ai composé pour du documentaire, pour de l'animation artistique et informatique. Et puis par contre, là, j'ai appris tout récemment que... Comme pianiste, où je joue la musique de Sylvain Chauveau, j'ai appris vraiment par hasard, le jour où le film a fait l'ouverture de la Mostra de Venise cette année de Sorrentino, justement, La Grazie. Et en fait, voilà, je joue du piano dans ce film.
On va entendre non pas un extrait de cette bande originale du film Drive My Car, mais une pièce de Ravel immédiatement. On en reparle juste après avec notre invité Melen Dalibert. Thank you. On va peut-être parler un petit peu de suite mathématique un peu plus tard avec Madame Dalibert, mais pour l'instant, on écoutait cette pièce-là. C'est un extrait du mouvement lent du concerto en sol de Maurice Ravel. Comment cette œuvre-là arrive dans ta vie, Madeleine ?
C'est vraiment pour moi un mouvement qui est important parce que c'est probablement en travaillant la partie de piano donc de ce concerto de Ravel que mon âme chavire et que je comprends que la musique est vraiment importante pour moi. Donc c'est mon professeur de piano à l'époque qui s'appelle Yves Moglet, j'étais élève en école de musique à Redon, qui me propose de m'accompagner au deuxième piano comme on fait souvent quand on réduit une partie d'orchestre. Et donc on fait ce projet de monter ce mouvement du concerto en sol. C'est pas facile d'expliquer, ce qui fait que tout à coup on sent que la musique nous atteint les tripes et que le travail qu'on y passe nous fait grandir, nous fait nous découvrir, et voilà, ça fait partie des œuvres charnières dans mon parcours de musicien.
Tu partages effectivement tes activités en tant que pianiste entre le fait de jouer des pièces, tu es interprète, et puis aussi le fait d'en composer, et puis aussi tu enseignes. Donc ça fait tout un pan incroyable en fait. Est-ce que ça veut dire que tu peux absolument identifier n'importe quelle pièce de piano que tu vas entendre, que tu peux nous faire un historique du piano dans l'histoire de la musique en 4 heures et en des parties précises?
Alors si vous me lancez sur l'histoire du répertoire pour piano, il va falloir prévoir plusieurs émissions, mais alors non, je ne peux pas reconnaître n'importe quelle pièce du répertoire parce qu'il est immense au clavier d'une manière générale, parce qu'il y a la musique qui est écrite pour le clavecin, pour l'orgue, non, j'ai pas une connaissance exhaustive et je pense que personne ne peut s'en garantir, mais par contre, vous voyez, j'ai une petite vision d'un panorama qui est déjà assez clair pour moi. Pour moi, ces trois activités d'interpréter, d'écrire, d'enseigner, je crois qu'au fond, elles sont tout à fait complémentaires et elles ne font nullement concurrence, en fait. Et d'ailleurs, tous les grands maîtres, que ce soit Bach, Chopin, j'en cite juste deux là, mais on tous pratiqué ces différentes activités.
Quand on va sur le site ici d'ailleurs, qui est un label qui a édité quelques-uns de tes albums, oui, on peut lire ceci: Madeleine Dalibert n'appartient pas à l'école néoclassique, non plus qu'à l'école minimale ou encore à la contemporaine, mais plus à la charnière de plusieurs genres qui font de sa musique un objet sonore singulier et unique. Alors, comment peut-on finalement n'être dans aucune de ces écoles et puis les connaître toutes quand même ?
Je sais pas, moi j'aime bien comparer les appétences culturelles avec la gastronomie. Moi, je suis omnivore, je mange vraiment tout, et avec gourmandise, et voilà, je trouve que il y a des inspirations à piocher dans tous les domaines, et je ne refuse aucune expérience. Donc voilà, c'est ce qui fait que on peut avoir tendance, plutôt qu'à me cataloguer dans un genre, à souligner mon intérêt pour la diversité.
Ce qui expliquera qu'on écoutera aussi bien du free jazz que de la musique ambiante, que aussi évidemment on parlera de ça, de l'influence des mathématiques aussi dans ton écriture, mais là on se penche sur une sonate de Schubert. Si tu peux nous la présenter en quelques mots avant qu'on en écoute un extrait, c'est un peu la règle malheureusement aujourd'hui dans cette émission Champ Libre. On n'écoute pas toutes les pièces en entier parce qu'on n'a qu'une heure d'émission,
bien
mais
sûr,
ça vous donnera envie, j'imagine, d'aller les rechercher du côté des Champs Libres ou ailleurs d'ailleurs, ces pièces-là.
Alors j'ai choisi une pièce de Schubert, j'aurais pu choisir plein d'autres. En fait, Schubert, c'est le compositeur qui se situe à la charnière du mouvement classique et romantique. Moi, j'adore absolument l'équilibre de son écriture, justement, entre classicisme et puis une subjectivité qui commence à s'affirmer. Cette sonate, c'est sa dernière sonate. Elle est longue, elle fait quasiment une heure. Je la trouve, vous voyez, bouleversante par à la fois la maîtrise de la forme et l'intensité des émotions qu'il parvient à provoquer chez l'auditeur. Je trouve que c'est une œuvre, c'est l'exemple même du chef-d'œuvre pour moi.
On se balade entre cinéma et musique avec notre invité du jour, Mylène Dalibert, pour ce Chant Libre A, saison 3, épisode 2. On a pu entendre eh bien, une pièce de Schubert, juste à l'instant, un extrait simplement, malheureusement. Et puis là, tu vas pouvoir nous emmener du côté de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, avec un univers musical qui, je pense, est un peu différent. On y entend plus des brass bands et puis du funk et du rap dans la série Trémé. C'est pas forcément pour la musique que tu veux nous en parler, ça fait partie aussi de l'ensemble.
Non, alors assurément la musique fait partie intégrante de cette série. J'aurais pu peut-être en choisir une autre de David Simon et Stéphane de Pelacanos qui co-réalisent ces séries, mais j'ai, voilà, c'est vraiment les séries, c'est un format que j'apprécie particulièrement, comme beaucoup de monde je crois. Moi, cette série m'a bouleversé par la qualité de sa réalisation, évidemment. Et ce que j'aime particulièrement, bon, c'est de la série réaliste qui dresse effectivement une sorte de photographie sociale à un instant donné. Cette série, elle commence à l'après-Katrina, l'ouragan qui a ravagé effectivement la Nouvelle-Orléans. Et on a ce qui me semble très intéressant, et c'est souvent le signe des grandes œuvres, je dirais, c'est la superposition de couches de lecture, si on veut. Là, on a vraiment à la fois une description sociale entre voilà, les différentes couches de la société qui essayent de surmonter effectivement cette tragédie. Et on a aussi eh bien, une vision sur la musique, sur les traditions qui sont extrêmement croisées hein, de cette région des États-Unis. Et puis il y a aussi un pendant sur la, parce qu'il y a un des personnages qui est une femme et qui essaye de monter son restaurant qui fait la cuisine française là-bas. Et voilà, moi ce que j'aime beaucoup c'est cette espèce de contrepoint hein, qu'on peut trouver aussi dans la musique entre voilà différents sujets qui s'entremêlent de façon hyper habile. Et ouais, je suis un grand adorateur de David Simon.
Qui a évidemment aussi œuvré du côté plutôt nord-est avec la série The Wire.
Avec The Wire, avec Show Me Hero, avec The Deuce aussi qui est formidable. Ouais, j'attends avec impatience la prochaine.
Alors on aura du mal à attendre le prochain enregistrement de John Coltrane, forcément. Ah, forcément. On va partir du côté plutôt free jazz maintenant avec un musicien qui a posé vraiment des jalons, hein, de nouveaux jalons dans la musique jazz avec cet album concept Love Supreme. Ça arrive dans ta vie il y a longtemps
quand même. Alors ça arrive, le jazz arrive dans ma vie au début des années 2000. Pour contextualiser, je sors frémolu du conservatoire de Paris. J'ai pas encore tout à fait renoncé je me suis pas encore mis dans l'enseignement. Voilà, j'ai une vingtaine d'années. Il va falloir commencer à gagner sa vie. Mais le jazz, en fait, après avoir passé, parce que apprendre le piano classique, c'est quand même beaucoup de, je vais pas dire beaucoup de renoncement, mais c'est beaucoup de travail et essentiellement focalisé sur le répertoire classique. Et évidemment, quand on découvre cette musique de jazz avec un petit peu l'esprit libéré d'avoir fini ses concours, enfin ses examens de conservatoire, on se dit, mais cette liberté, en fait, c'est vraiment ce que je vais chercher à tout prix à avoir, que ce soit en qualité d'interprète, mais aussi dans la création qu'on pourra produire. Et moi, ce qui est assez saisissant quand on écoute la musique de Coltrane, c'est effectivement cette espèce de vent de liberté qui nous saisit, et surtout l'intensité, en fait, l'intensité du jeu. Moi, c'est ce qui m'a vraiment frappé dans le jeu de Coltrane, c'est-à-dire qu'il y a une présence de tous les instants. C'est particulier le piano, parce que le piano, on joue d'un instrument mécanique. Une fois que le doigt a frappé la touche, on ne peut plus faire grand-chose. Il y a jusqu'à la prochaine attaque. Et ce qui est formidable avec ce son de saxophone qui est si puissant, c'est qu'on sait qu'à chaque fraction de seconde, le souffle doit être là, parce que sinon, le son n'existe pas. Et ouais, ça a été pour moi un grand choc, c'est la découverte de ce jazz. Ouais. Thank you.
John Coltrane avec un extrait de A Love Supreme à l'instant, et puis c'est là qu'on revient au cinéma avec peut-être le trublion de la nouvelle vague. Je dirais, on pense que c'est Godard peut-être toujours, mais non, finalement non, ce serait pas plutôt Eric Rohmer qui continuera à aller dans son sillon de recherche, toujours entre la philosophie, le conte et puis le jeu de non-professionnel, ce qui fait que ça ne plaît pas toujours à tout le monde, Eric Rohmer, mais toi
clivant.
Ça te plaît, Melanie Dalibert.
C'est clivant, c'est sûr, mais je fais partie de la team qui apprécie beaucoup Rohmer. Ouais, quand il s'agit de penser cinéma, j'ai forcément un moment où je pense à Rohmer, parce que c'est un cinéma qui m'a beaucoup nourri et qui a aussi beaucoup questionné, parce que j'ai rencontré tellement de personnes qui supportaient pas ce cinéma, que je me dis, mais comment ça se fait que moi je l'aime beaucoup, et je me suis posé la question si ça ne tenait pas justement au fait effectivement qu'il se situe vraiment à un endroit très très spécial, qui est au croisement de ce qui est très écrit, très artificiel si on veut, et puis très improvisé en même temps, par le jeu effectivement d'acteurs parfois non professionnels, et aussi qui laisse la place à l'improvisation dans un cadre qui est très pensé en même temps, et on est là en fait finalement à un petit peu dans le même sentiment que lorsqu'on se dit « j'aimerais tellement être jazzman, j'aimerais tellement improviser », et puis finalement que lorsqu'on joue le répertoire, on est tellement bien dans un répertoire bien écrit. Enfin, c'est une situation qui peut paraître un petit peu paradoxale, mais moi que je trouve extrêmement, en fait, qui crée une poésie qui n'aurait pas lieu sans ce savant mélange, cet équilibre très particulier qui en fait un cinéma unique pour moi.
Vous avez l'occasion de le découvrir, le cinéma d'Eric Rohmer, à travers peut-être ce livre que tu as choisi, toi, à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres.
Qui s'appelle « Le goût de la beauté », qui est une publication des Cahiers du cinéma et qui regroupe pas mal de textes de Rohmer.
Et si on va au-delà de ces textes-là, peut-être plus théoriques finalement, d'Eric Rohmer, est-ce que tu aurais ton film préféré d'Eric Rohmer, si ça existe, puisque
tu aimes
tout le cinéma de Rohmer, mais...
Alors oui, enfin, j'aime... Plutôt, mais enfin avec des nuances. Allez, je dirais Conte d'été, ce qui se passe en Bretagne.
Tu lui as parlé de Solène ?
Alena ? Non, t'es folle.
Tu es pas mal dissimulateur, toi aussi.
J'aimerais mieux être tout à fait franc avec elle, mais c'est pas possible. Je ferais une montagne de rien. Et puis le premier jour, c'était tout à fait idyllique, j'allais pas apporter les nuages. Et le second, ça tournait à l'orage, j'allais pas le faire éclater. Puis j'aime pas mentir.
Qu'est-ce que tu racontes ? Raison de plus pour parler.
Non, parce que si je parle pas, elle me questionne pas et j'ai pas à mentir. Alors que si je parle, comment tu veux que je lui dise la vérité alors que moi-même je la connais pas ? Est-ce que Solène me plaît ? Est-ce qu'elle me plaît pas ? Répondre, ça me forcerait d'exagérer dans un sens ou dans l'autre.
Et de moi ? Tu lui as parlé ?
Ben non.
Là, tu n'avais rien à cacher. Et j'espère que tu sais ce que tu penses de moi.
Bien sûr, mais on avait d'autres choses à se dire.
Des choses plus importantes que tes promenades avec la petite serveuse.
Non, arrête, j'aime pas que tu parles comme ça.
D'accord. Mais si tu lui parlais d'autres filles, ça te rendrait peut-être plus intéressant.
Mais je cherche pas à me rendre intéressant. Je veux qu'elle s'intéresse à moi d'elle-même. Puis d'ailleurs, actuellement, mon problème n'est pas là. C'est pas de savoir si elle m'aime, mais de savoir si moi je l'aime. Même quand nous étions si bien mardi, c'était trop beau. C'était pas vrai. J'étais pas moi. Je vais te dire une chose qui va te faire plaisir. Il n'y a qu'avec toi que je suis moi. Avec Solène non plus, je me suis pas senti moi-même. J'étais comme dans un voyage, ou plutôt comme voyageant dans une histoire. Comme essayant de m'identifier à un personnage qui n'est pas moi.
Et avec Léna ?
Je joue aussi un personnage que je me suis fabriqué pour elle, pour faire face à son ironie. Elle m'y oblige. Elle me voit d'une certaine manière et que j'accepte ou refuse, je dois sortir de moi.
Avec moi non plus, tu n'es jamais le même. Je ne cesse de changer d'avis sur toi. Au début, je t'avais pris pour un amoureux transi, puis pour un dragueur maladroit, puis pour plus malin que tu ne le paraissais, puis pour coquin plutôt, puis pour pas si coquin que ça, brave au fond, mais malin quand même.
Il y a de ça. Alors avec moi, tu ne te sens pas à l'aise?
Si, tout à fait bien.
Tu te sens toi-même?
Ouais. Il y a là rien d'extraordinaire. C'est plus facile d'être soi-même avec un ami qu'un amoureux, parce qu'il n'y a pas de comédie à jouer.
Finalement, je crois pas que ce soit tellement intéressant d'aller à Ouessant pour un voyage d'amour.
À mon avis, non.
Alors viens avec moi.
Encore? Et mon travail, qu'est-ce que tu en fais?
Tu peux te libérer, tu disais.
Peut-être. Mais tu as promis à d'autres. Elles l'ont pas refusé.
Eh ben moi, je les refuse. C'est toi que je choisis. J'ai envie de tout sacrifier pour toi.
Mais moi, je ne veux que tu ne sacrifies rien.
Ouais, mais en fait, je te sacrifie rien. Elles vont toutes les deux se défiler. C'est l'idée d'être remplaçante qui te gêne?
Non. Je suis au-dessus de tout ça. Tu vois, j'ai envie d'aller à Ouessant. J'ai envie de partir quelques jours, de prendre l'air, de quitter ce restaurant, de passer quelques journées entières avec toi, même si c'est risqué. Mais ce serait pour toi qu'un pis-aller. Et je veux à aucun prix être un pis-aller. Plus tard, quand ça n'aura pas marché. En hiver, c'est la meilleure saison.
On l'a déjà évoqué tout à l'heure, ce compositeur Jean-Sébastien Bach, à travers la relecture qu'avait pu faire Paul McCartney d'une vieille bourrée, comme ça, qu'il avait composée, et que Blackbird garde en mémoire quand même, hein, cette chanson-là des Beatles. Ici, vous entendiez un extrait de la fugue en si bémol mineur, joué au clavecin par Kenneth Gilbert, c'est choisi par notre invité du jour dans le champ libre à Melaine Dalibert. Et on va sans doute parler mathématiques dans un instant, mais parlons de la composition chez un géant comme Jean-Sébastien Bach. Comment c'est possible d'aborder une œuvre comme la sienne, en fait, au départ de son intérêt pour le piano?
Et le clavier.
Pour le clavier, parce que Bach n'a pas vraiment connu le piano, il écrivait plutôt pour soit l'orgue, le clavecin, les clavicordes. Alors Bach, moi j'ai mis du temps à y trouver l'intérêt. Pour moi, c'était quand j'étais enfant ou plus jeune, c'était plutôt j'y voyais surtout un intérêt un peu didactique. Et j'ai appris avec la maturité à en apprécier la richesse. Et je dois dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le pain quotidien. Bach, mes journées au piano commencent par une demi-heure de Jean-Sébastien Bach. Et je crois que sa production, en fait, il y a vraiment très peu de... C'est très égal, j'essaye, ce compositeur, de l'aborder de manière la plus exhaustive possible. C'est-à-dire qu'on met les livres de sa production en pile sur le piano, et tous les jours on en lit un petit peu, pour moi c'est une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour, et on tourne les pages, et lorsqu'on a fini, on revient aux premières, et ça, pour moi, c'est vraiment le compositeur qui participe à mon équilibre quotidien.
Tu joues donc très, très régulièrement, quotidiennement, tu le dis, ouais, à des pièces de Jean-Sébastien Bach. Quand toi, il s'est agi pour toi de composer des pièces de ta création, tu es allé vers, et là je vais citer le site Muraille Musique, qui s'occupe pas mal de tes activités, tu es allé vers le processus basé sur des suites mathématiques dans l'écriture. Alors ça, c'est quelque chose qui peut remonter à des compositeurs plus anciens comme Bach?
Oui, complètement, parce que c'est pas que j'ai un attrait particulier pour les mathématiques en soi, c'est plutôt une manière de canaliser l'invention. C'est-à-dire que je fais partie des personnes qui ont besoin de contraintes, et je pense qu'en fait on a toujours besoin de contraintes pour avancer. Et c'est vrai que dans l'écriture, on a souvent une vision un petit peu post-romantique, de se dire voilà, le musicien c'est celui qui se met dans un état second et qui reçoit l'inspiration d'on ne sait où, et qui fait des choses un petit peu au feeling. Et certainement on peut faire des choses de cette manière. Et puis j'aime bien justement essayer d'écrire une musique qui court-circuite un petit peu la subjectivité, une écriture trop intuitive. Moi je me sers justement de suites numériques justement pour créer des musiques qui se déroulent un petit peu d'elles-mêmes. Après, moi, ma sensibilité elle s'exerce de musicien quand même sur le paramétrage, c'est-à-dire ces suites numériques, elles forment des patterns, des motifs, et je les associe à des hauteurs, à des durées particulières. Enfin, c'est un jeu. Là, je suis un petit peu en train de vous décrire ma cuisine personnelle, ou plutôt les arrières cuisines. Comment on se met d'accord avec soi-même sur comment on invente la musique. Moi, j'aime bien jouer avec ça.
Et je vais citer quand même quelques disques de Melaine Dalibert, entre Musique pour le lever du jour, c'était en 2018, ou Eden Fall l'année dernière. Il y a eu aussi Shimmering, que vous avez entendu sur Canal B, et puis je vais en citer un autre, Life Without Machines. Tu conseilles parfois certains de tes disques à des gens qui seraient susceptibles de te découvrir à travers ce disque-là plutôt qu'à travers un autre? Parce qu'il y a une entrée logique dans la musique de Melaine Dalibert en tant que compositeur et sur la musique enregistrée, je veux dire?
Pas vraiment, et on peut dissocier un petit peu. J'ai plusieurs, j'aime bien la diversité, et j'essaye de ne pas m'enfermer dans une manière d'écrire. Donc je viens de parler un petit peu des processus un peu algorithmiques qui peuvent parfois être le germe de ma musique. Et j'ai écrit aussi des pièces qui sont un peu plus intuitives, mais qui néanmoins sont aussi liées à ma pratique à côté de l'algorithme. Voilà, en fonction des publics, et surtout en fonction des scènes que je suis amené à investir, j'adapte un petit peu, parce que il y a certaines de mes musiques qui sont pour moi plus des objets discographiques. Qui correspondent plutôt à une écoute tranquille au casque, et puis il y a des pièces qui sont plutôt des pièces de scène. Il y a un album aussi, Magic Square, que j'ai sorti au Japon, qui sont vraiment des pièces assez courtes et qui conviennent bien au format concert. Et puis il y a des musiques qui sont plus des musiques d'écoute, comme Eden Fall ou Vermilion Hours, mon dernier disque que je viens de sortir avec David Sylvian. Là, on est plus dans une musique ambiante, qui est un style que j'affectionne aussi particulièrement.
Le Japon, encore évoqué hein, par Mylène Delibert juste à l'instant. On y revient avec un film d'un réalisateur européen, pourtant, ouais. Wim Wenders, qui pouvait se sentir aussi chez lui au Texas que à Tokyo, peut-être.
Ouais. Oui, alors voilà encore un réalisateur qui nourrit mon appétence pour la culture japonaise. Perfect Day, c'est un de mes derniers coups de cœur cinématographiques. Et voilà, c'est autant saisi par la beauté du cinéma, des images, que par l'histoire d'un homme simple, en fait, hein, qui est... Alors on dit Madame Pipi, je suppose, pour un homme, mais voilà, qui nettoie les latrines publiques au Japon et qui aborde son travail avec toute la conscience, la conscience d'un personnage qui veut bien faire son travail. Et c'est quelque chose qui, évidemment, qui manque pas de... Et eh bien de me titiller, parce que on parle là en fait d'artisanat, en fait de chaque jour essayer de faire le mieux possible sa tâche. Et je crois que quand on est musicien, on n'échappe pas à ça. En fait, on est bien des artisans aussi. On travaille, on remet sur le métier, et on essaye de bien faire les choses. C'est un bijou, ce film. Il faut absolument courir le voir si ce n'est déjà fait.
Sélection de Mylène Delibert aujourd'hui dans cette fin de Champ Libre A, saison 3, épisode 2. On a juste cité les dates du festival Autre Mesure que tu programmes, Mylène, et auquel on peut te voir parfois participer en tant qu'interprète. On te retrouvera forcément dans quelques semaines pour... nous parler de cette programmation avec ton complice J.S. Nicolet.
Tout à fait.
On va terminer avec une pièce plus contemporaine que ce qu'on a pu entendre depuis le début de ta sélection musicale. Et encore, je ne sais pas de quand date cette pièce Cascade de William Basinski. Là, on est plutôt dans de la musique ambiante cette fois.
Oui, c'est une musique ambiante, donc comprendre par là, voilà, une musique un peu tapisserie, si on veut, pour reprendre un petit peu le mot d'Alex Satie, qui parlait de musique d'ameublement. C'est musique qu'on peut, pour laquelle on peut trouver un intérêt aussi bien en l'écoutant attentivement ou d'une manière plus distraite, un petit peu en fond. Et Basinski, oui, ça fait partie des musiciens, alors il est californien, que j'apprécie beaucoup pour la qualité des textures qu'il crée. Vraiment, il est un petit peu à mi-chemin entre les pratiques musique et puis de plasticien. En fait, il aborde vraiment la musique comme une matière sonore qu'il déploie sur des temps souvent très longs. En fait, il travaille beaucoup avec des enregistrements à bande, et c'est souvent des très courts patterns qui sont étirés, dilués, et il n'y a pas de narration à chercher dans cette musique. C'est vraiment une musique pour le son, une musique pour une musique berceuse un petit peu, et moi je suis tombé dedans, quoi.
Merci de nous avoir baladé dans ces différentes périodes musicales, dans ce qui fait ta sensibilité aussi. Merci Mylène Delibert d'être passée dans Champ Libre à saison 3, épisode 2, je le répète une dernière fois. On retrouvera le festival Autre Mesure en 2026, et puis vous retrouverez bientôt la programmation sur autremesure.com pour la 11e édition de ce festival de musique contemporaine in situ. Merci beaucoup Mylène, à bientôt.
Merci Yann, à bientôt.
Les références des documents empruntés par Melaine Dalibert à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres, des Beatles à William Basinski en passant par Schubert ou John Coltrane, vous les retrouvez sur canalb.fr. Émission Le Grand Tout, elle reviendra cette émission le lundi 3 novembre. D'ici là, vous pouvez évidemment écouter les anciennes. C'est la même adresse, canalb.fr. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!